vous êtes dans Alterbulle numéro 6 avec Monsieur B, notre spécialiste BD.
Bonjour. Bonjour.
Avec Caro à la technique.
Toujours. Au poste, fidèle au poste.
Le temps est passé très vite depuis la dernière émission.
Et nous. Et ce mois de septembre est très très chaud.
Très très chaud, exactement. Et nous allons parler aujourd'hui de BD historiques, histoire de se plonger dans le passé.
Tout à fait. Les BD historiques, c'est pas trop mon truc d'habitude. Hein. C'est pas ce que je préfère, mais là.
Ah, tu commences.
Là, il y a une série.
C'était
difficile de résister quand même. Oui, bah voilà. On commence par un monument.
Un monument, Monsieur Tardy.
Bah voilà, c'est ça. Donc,
Excuse-moi. Moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2B.
Voilà. Donc, Tardy aura tourné autour du projet pendant des années et finalement, bah, il se sera lancé. Donc, bah, il raconte l'histoire de son père, tout simplement, rien que ça. Et il s'y attelle. Alors, moi, j'avais un peu décroché des Tardy. Je trouvais que justement, ces BD plus historiques étaient un peu. Il y avait des adaptations de polar et tout. Mmh. Bon, je trouvais pas ça vraiment follement passionnant. Mais alors, celui-là, là, c'est vraiment. Quelque chose d'époustouflant, quoi. Donc, suite à de longs entretiens avec son père, il lui a demandé de raconter, effectivement, son séjour dans les camps de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale. Il a mis ça en image. Donc, alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il se raconte dedans. C'est-à-dire qu'il a transformé ça en dialogue. Ouais. Entre lui et son père. Mmh. Donc, il se dessine sous la forme d'un gamin, voilà, qui parle avec son père. Donc, le père raconte comment voilà, il s'engage. Alors, le père de Tardy, c'est un sacré personnage. Ouais. Tardy, c'est déjà un sacré personnage. Voilà, quand vous voyez le père, vous comprenez un petit peu mieux
d'où
vient le fils. Et donc, il a une espèce de verbe absolument incroyable, quoi. Une verbe, alors, et il insulte la terre entière. Hein. Enfin, c'est vraiment, il y a un côté comme ça, une espèce de colère, comme ça, pareil, permanente. Et donc, il raconte comment il s'engage, il se retrouve dans les blindés. Alors, toute la première partie, c'est assez. Il se retrouve, c'est la drôle de guerre, hein, donc il est paumé complètement, c'est le désordre total, le chaos total dans l'armée française. Et donc, on dessine pendant des pages et des pages, il dessine le char du père de Tardy qui erre dans la campagne, qui trouve vaguement des trucs, mais finalement, c'est pas. Il n'y aura pas de grande bataille fabuleuse. Mais au bout d'un moment, Tardy écrit même. Bon, j'en ai marre de dessiner les chars, là. J'en ai assez, quoi. Parce qu'évidemment, Tardy, il y a un côté extrêmement maniaque dans la reconstitution, donc tout est extrêmement minutieux, on voit qu'il a dessiné chaque plan de truc, mais finalement, c'est pas ça l'important, quoi. Mais ça apporte quand même un plus quand même indéniable à ces bandes dessinées. Mais ce qui est vraiment fort, c'est le dialogue entre ce fils et ce père. Y a des moments... Bon, moi, je trouve époustouflant où il pose des questions, les questions qu'il n'a pas pu poser. C'est-à-dire que son père est décédé quand le livre sort. Donc, il dit j'aurais voulu te demander ça, mais j'aurais jamais les réponses. Quoi. Donc, les blancs, les incohérences aussi dans le récit, forcément, quand vous racontez des choses qui sont passées il y a très longtemps, il y a des choses qui ne collent pas. Mais c'est très touchant de voir ce petit bonhomme là, qui parle dans le vide à un moment, alors que la case d'avant. Il discutait avec son père, enfin, ils se répondent l'un l'autre. C'est très, très récit. Alors, au niveau de narration, c'est. Moi, je trouve ça époustouflant. On est sur des grandes cases, tout en longueur, comme ça, avec trois cases à chaque fois, quasiment. Donc, c'est un récit qui joue sur la lenteur aussi. Enfin, il y a un truc qui n'est pas toujours bien rendu dans les récits de guerre, c'est le temps. C'est-à-dire que ça prend un temps infini, quoi, parce que ils les emmènent à l'autre bout de l'Europe pour les enfermer dans des camps absolument horribles. Donc, ça prend un temps fou d'emmener une masse de gens comme ça, une foule totale. C'est pareil, après, ils finissent par être libérés, au bout d'un moment, ils reviennent dans le deuxième tome, ils reviennent en France. Et le récit du retour en France, c'est une épopée, quoi. Enfin, retourner je ne sais même plus où ils sont, mais de très très loin en Europe de l'Est, tout retraverser dans l'autre sens en 45, c'est un voyage absolument incroyable. Donc là, il n'y a que les deux premiers tomes, là, le troisième tome, il est en train de travailler dessus, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. C'est un récit assez âpre, on va dire, c'est assez dur, mais c'est indispensable à lire, il faut avoir lu ça absolument. Même si Tardy vous a un peu fatigué ces derniers temps, jetez-vous là-dessus, quoi. J'ai fait la fine bouche et franchement, je m'en mords les doigts parce que c'est vraiment merveilleux.
Donc, Tardy, moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2B chez Casterman. Dans la même ordre d'idée, même, enfin, c'est pas une BD, mais si vous avez envie de lire un livre très très bien, c'est une dame qui s'appelle Herta Müller, qui a eu le prix Nobel, qui a écrit un très très bon livre qui s'appelle La bascule du souffle aussi.
D'accord.
Sur comment ça se passait dans les camps aussi, et on n'en ressort pas indemne. C'est un des meilleurs livres qui existent, je pense. Donc, on retourne sur la BD. On continue avec Paco Roca, avec La Nueve.
Paco Roca, je vous en avais déjà parlé. Il avait fait un livre sur un magazine de bande dessinée pendant l'Espagne franquiste, en fait.
Mm-hmm.
Un très beau livre sur une tentative de... Voilà, il travaille dans un magazine officiel et il tente de fonder leur propre magazine. Donc c'est des petits magazines tout à fait... on n'est absolument pas dans des trucs révolutionnaires, on est sur des personnages d'enfance, quoi. Une BD pour gamins. Mm-hmm. Et ça raconte l'échec de cette tentative-là. Et c'était très très beau déjà. Donc La Nueve, ça raconte l'histoire de la division qui a libéré Paris. Parce que la première division, on parle du général Leclerc. Mais là, les vrais premiers à avoir débarqué à Paris, c'était des républicains espagnols. C'était la 9e et elle était constituée effectivement en grande majorité de républicains. Donc Paco Roca est allé chercher un des survivants de cette époque-là, pour qu'il raconte... Alors, c'est un double récit, donc il raconte l'histoire de ces réfugiés et en même temps la rencontre avec un sacré personnage. Il rencontre Miguel, donc un vieil espagnol tout seul comme ça, alors qu'il va absolument pas, qui est très résistant au départ, puis qui va petit à petit finir par plus se livrer. Mais il y a un côté très touchant dans l'avancée comme ça. Et l'histoire est absolument incroyable.
On est aussi dans cette idée de dialogue, là encore.
Entre le présent et le passé. Avec modération.
D'accord.
Il entremêle très peu, en fait. C'est très ponctuel. Mais c'est très bien construit. Enfin, c'est un gros pavé. C'est très fluide l'un l'autre. On est plus. Dans la relation, il joue pas trop sur le côté aller-retour entre. C'est un dispositif qui est plus sur l'évolution de la relation avec ce vieil homme, quoi. Comment il va lui gagner sa confiance, quoi. Enfin, revivre des choses pas très 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 amusantes, parce que l'histoire de ces réfugiés espagnols est absolument incroyable, quoi. Ils vont être brinque-ballés, donc ils s'évadent dans une façon absolument terrible dans un bateau. Ils s'embarquent dans des circonstances assez dramatiques sur un bateau au départ. Ils vont échouer. Et puis, personne n'en veut, en fait, de ces républicains. C'est des communistes, un peu. C'est des grandes gueules. Alors, ils sont intéressants en même temps parce qu'ils se sont battus, donc ils ont une certaine expérience. Et en même temps, c'est quand même des cocos et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, ils vont être brinque-ballés. La France va évidemment... Il y en a une partie qui vont être enfermées dans les camps d'Argelès, il y en a d'autres qui vont être envoyées en Afrique du Nord. Donc c'est un périple absolument terrible. Et c'est dur aussi parce que c'est les perdants, quoi.
Enfin, oui.
On sent bien que eux, c'est ceux dont personne ne veut, quoi. Donc, et finalement, c'est quand même eux qui vont libérer Paris des nazis, quand même. Donc il y a
un beau retour.
Donc le graphisme de Paco Roca, moi j'adore ça. Enfin, c'est une ligne claire très 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 classe là. Il a une très très belle mise en couleur, très très classique là, mais très 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 bien faite. Alors il y a une manie dans les livres historiques. À chaque fois, ils mettent il y a toujours un complément à la fin. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sentent obligés à la fin. Donc là, vous avez tout un plein de pages à la fin qui vous réexplique ce que vous avez déjà lu. Alors, je trouve ça assez énervant, quoi. C'est-à-dire que on fait pas confiance à une BD quand même. Donc c'est un peu pour les neuneux, quoi. Donc on met à la fin. Vous avez un mot. Alors c'est qui est-ce qui fait la préface? C'est Anne Hidalgo, Anne Hidalgo qui fait la préface, ça fait sérieux quand même. Hein. Et à la fin, on vous réexplique toute l'histoire avec des mots un petit peu plus savants, mais alors que vous avez déjà tout lu dans la bande dessinée. Ça, c'est un truc assez classique dans les BD historiques, un peu agaçant et un peu ridicule, parce que ça fait sérieux le dossier à la fin, quoi. Alors que franchement, le récit est déjà largement, se suffit à lui-même. Ouais.
Super. Donc, c'est La Nueve de Paco Roca, les républicains espagnols qui ont libéré Paris chez Delcourt Mirage. On continue avec Demain, demain. De quoi ça parle cette fois-ci?
Alors là, c'est un livre de Laurent Maffre chez Actes Sud BD. Alors Actes Sud BD, ils n'en font pas beaucoup, mais souvent, ça vaut le coup d'y jeter un œil parce qu'en général, c'est pas mal. Alors, Demain, demain, en fait, ça raconte l'histoire des bidonvilles de Nanterre. Nous sommes là dans France des années 60. Et dans la France des 60, il faut reconstruire la France, donc ils ont besoin de main-d'œuvre. Sauf que y a eu la guerre par là, c'est pas encore reconstruit, donc ils vont aller chercher de la main-d'œuvre où il y en a, c'est-à-dire dans nos colonies. Donc on va faire venir des ouvriers algériens, sauf que il n'y a pas où les loger. Donc ils vont construire eux-mêmes des bidonvilles à proximité des... Alors, c'est à Nanterre, donc c'est juste à côté. Il y a quelques logements qui sont faits, mais il y a toute une procédure pour qu'ils y arrivent. On leur donne pas comme ça des logements. Donc, il y a une espèce de ségrégation. Au loin, ils voient la promesse de l'avenir, quoi. Ils sont dans leur bidonville terrible. Et ils ont... ils savent que suite à un périple, ils... Peut-être qu'un jour ils arriveront, l'avenir, la promesse qu'on leur fait, c'est qu'ils auront un jour un appartement avec, avec l'eau courante, avec l'électricité, une salle de bain, des trucs absolument. Donc Laurent Maffre, moi je ne connaissais pas avant et j'aime beaucoup son dessin. Il y a un dessin à côté très naïf avec une déconstruction comme ça, il n'y a pas de cases, il y a c'est des toutes petites cases où. Et il raconte ça vraiment très avec un tout petit prisme. Enfin, vraiment, il va prendre il n'y a pas de grandes envolées. Il n'y a pas de. Il en rajoute pas dans le pathos. Enfin, c'est vraiment un très 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 beau récit sur une histoire pas très 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 glorieuse. Donc, il évoque aussi la manifestation de 61 où les gens manifestent dans la rue et se font tirer dessus par les flics français quand même, et jeter dans la Seine. Donc il y a un petit passage très, très fort là-dessus, mais tout simple, vraiment pas, il n'y a pas besoin d'en faire plus, quoi. Et mais on est vraiment dans le quotidien de cet endroit, là, de cette ville dans la ville, de ces exclus, de leur parcours compliqué quand même. Donc une histoire à connaître et importante, je pense.
Ouais, en BD, c'est quand même... super intéressant de se plonger dedans. Donc c'est Laurent Maffre, Demain demain, Nanterre, bidonville de la folie, 1962-1966, donc chez Actes Sud BD. Un petit peu de musique ? There were those who didn't run. There were those who couldn't take it. There were those who stayed in the city. What was it? Where did it go? There were those who laid their bodies down. There were those who took out knives. There were those who kissed the gray skies. There were those who knew only the sound of their own voices. There were those who knew the rules. There were those who freed their bodies. There were those who couldn't take it. There were others on their own. What was it? What was it? There were strangers and con men. There were those who lived in the crawl space. There were people lighting candles. There were people going crazy. There were those who walked the beach. But war is that. What town could this be? There were those who didn't run. There were those who couldn't take it. There were those who stayed in the city. What was it? Where did it go? There were those who laid their bodies down. There were those who took out knives. There were those who kissed the gray skies. There were those who knew only the sound of their own voices. There were those who knew the rules. There were those who freed their bodies. There were those who couldn't take it. There were others on their own. What was it?
Moi aussi. You were strangers and kind men. You were those who lived in the crawl space. There were people lighting candles. There were people going crazy. There were those who walked the beach. What war was that? What war was that? What town could this be?
Vous êtes toujours dans Alterbulle avec Monsieur B et alterinfo.com. On vient d'écouter le très grand Colin Stetson avec la voix de Laurie Anderson
sur, rien que ça, quand même.
Sur le titre. Eh ben, j'ai déjà oublié.
Dream of Water.
Voilà. C'est ça. Dream of Water.
New History Warfare volume 2, je crois. Donc c'est History, donc voilà. J'ai chopé comme ça, mais ça va exactement avec le petit poème de Laurie Anderson, va très très bien avec ce dont on parle ce soir.
Exactement. Alors on continue avec cette fois-ci des esclaves.
Ouais, on revient, c'est pas chronologique, hein. J'ai hésité à le faire chronologique, mais je voulais mettre ces deux derniers-là, parce que ces deux derniers-là, les autres sont bien, mais alors les deux derniers sont encore mieux.
Alors déjà, tu nous as donné vachement envie avec les trois premiers, donc...
Ah, même ceux-là, ils sont un cran au-dessus encore.
Alors c'est un monsieur qui s'appelle Savoya.
Oui, Savoya, c'est un monsieur, alors moi je le connaissais pas très très bien, c'est un monsieur qui a fait beaucoup de BD, qui ont eu pas mal de succès, il avait fait Nomade, je crois... Ça, j'ai pas lu. Et Marzi aussi, ça a bonne réputation, mais pareil, j'ai pas lu non plus. Je connais pas son travail à côté, mais là, c'est. Il a décidé de s'essayer à un truc qui est très à la mode.
Ouais.
C'est la BD reportage. Quoi. Mm-hmm. Donc, ça se fait beaucoup en ce moment, il y en a beaucoup. Il y a avec des réussites. Hein, je vous conseille la revue dessinée, c'est vraiment une merveille, cette chose-là. Il y a vraiment. Plein de choses très 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 intéressantes dans la revue dessinée. Il y a des choses moins réussies, mais là, celui-là, franchement... Donc, les esclaves de Tromelin, alors Tromelin, c'est pas dans le Finistère, Tromelin...
Ça aurait pu.
C'est une petite île au large de Madagascar. Mm-hmm. Mais quand je dis petite, c'est petit, quoi. C'est-à-dire que de large, je sais plus la taille que ça fait, mais c'est moins d'un kilomètre de large, quoi. Enfin, c'est ridiculement petit. Et donc, en fait, il raconte l'histoire d'une expédition archéologique, donc où une équipe est partie sur cette île à la recherche des restes d'un naufrage qui avait eu lieu au 17e ou 18e, je sais plus. Voilà, j'ai mal fait mon travail.
Attends. non, ça c'est quand il le retrouve. Donc c'était en 1761.
Voilà.
Le naufrage.
Donc, et c'est un navire chargé d'esclaves qui va s'écraser sur cette minuscule île. Et donc, l'équipe d'historiens est partie à la recherche de ce qui reste sur l'île. Alors, l'île, c'est, quand il atterrit, c'est un truc absolument... Déjà, il faut se poser dessus, c'est ridiculement petit, quoi, donc il faut réussir à y aller. Et qu'est-ce qu'il y a comme reste d'un naufrage ? Alors, c'est... Comme dans, souvent, il va utiliser un procédé qui est assez classique, il va mélanger les deux. C'est-à-dire qu'il va raconter l'histoire des esclaves, une forme de fiction, quoi. Et parallèlement, hop, le récit va basculer sur le récit de son voyage à lui. C'est-à-dire que, y a un basculement graphique, le récit est raconté de manière très classique, hein, oui. Avec des cases, un découpage assez, assez classique. Et hop, quand on passe au reportage, on est plus éclaté, il y a plus de texte, ça part un petit peu plus. C'est des tout petites cases, des tout petits dessins avec plein de détails, très 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 chouette. Et là, je trouve que l'alchimie entre les deux, je disais chez Paco Roca que c'était assez classique et que ça fonctionnait en ping-pong. Là, franchement, il y a quelque chose de très très fort qui se passe entre les deux. Il arrive à avoir autant d'intensité dans son récit fictionnel que dans son récit de reportage. Ça, c'est assez, assez balèze. Donc l'histoire est extrêmement forte parce que du coup, on va avoir les marins de l'équipage blanc et les esclaves qui vont être obligés de vivre ensemble sur ce tout petit bout d'île ridicule et d'y survivre, quoi. Et au bout d'un moment, les marins vont les abandonner, en fait. Ils vont construire un radeau et vont les laisser en leur promettant, le capitaine promet, le lieutenant plutôt, promet de revenir les chercher. Il fait la promesse donc, à une des esclaves dans l'histoire, mais dans ce qu'il a raconté, il fait la promesse de revenir les chercher. Et donc, au bout d'un moment, il n'y a plus que les esclaves qui vont être sur l'île. et on n'a plus que le récit des esclaves. Donc l'histoire est, est extrêmement puissante. Hein, ça fait, il y a plein de choses qui se passent entre les voilà le rapport de force entre les deux. Enfin le et ce qui est balèze, c'est que toute la partie fictionnelle en fait est racontée du point de vue d'une esclave. Donc vraiment en termes d'implication émotionnelle. Là, ça fonctionne super fort, quoi. Il y a tout un passage au début où elle est emmenée dans le bateau, sauf que elle comprend pas la langue, donc tous les blancs parlent une espèce de charabia absolument incompréhensible. Enfin, ça, c'est très c'est tout simple, hein, mais ça fonctionne très bien. Donc, c'est un livre auquel j'ai résisté. Voilà, c'est je dis encore un truc de reportage, ouais, bon, un truc historique, bon. Et franchement, une fois que voilà, laissez-vous faire quoi. Ne résistez pas. Une fois que vous aurez ouvert les pages, au bout de 3 pages, c'est foutu quoi. Vous lisez ça, c'est extra, très riche. Enfin, vraiment, il y a c'est foisonnant enfin comme livre. Il y a vraiment plein de choses à tous les niveaux dans le récit d'une vie sur une toute petite île comme ça. Enfin, il y a un côté l'économie, comment on fonctionne. Sur une île, comment on gère l'eau, comment on gère l'électricité. Enfin, y a plein de détails extrêmement pratiques, tout ça, qui rend vraiment extrêmement bien, plus le fond historique qui est vraiment bouleversant, enfin, qui est vraiment très fort, quoi. Donc, là encore, à la fin, on vous réexplique tout avec des mots et des photos, hein, parce que, bon, quand même, pas déconner, mais c'est un peu dommage. Mais pour le reste, n'hésitez pas, jetez-vous dessus. C'est un seul volume. Franchement, en lecture de cet été, si vous avez qu'un à lire, prenez celui-là, quoi. C'est très fort.
Voilà, ça vous rendra la rentrée plus facile. Savoya, les esclaves oubliés de Tromelin, chez L'Air Libre. On continue avec un tout petit livre.
Ouais, un tout petit livre.
Avec un super marque-page.
Pour une fois, c'est pas un machin de 300 pages.
Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Mana Niestani qui l'a écrit, qui a glissé comme marque-page
dans son petit manuel.
Dans son petit manuel.
Donc c'est le petit manuel du parfait réfugié politique.
Voilà.
Et je sais pas si
tu... Voilà, et il a glissé donc son titre de séjour comme.
Oui, voilà. C'est très. Alors Maya Neyestani, c'est un auteur que je sais plus si je vous en ai déjà parlé. Il avait été un petit peu reconnu en France parce qu'il avait sorti une Métamorphose iranienne, qui était le récit de son incarcération en Iran, quoi. Parce que bah, le monsieur, son métier, c'est dessinateur. Alors dessinateur en Iran, c'est pas très simple. Et il racontait pourquoi il les a enfermés suite parce qu'il avait dessiné un cafard. En fait. Et donc le cafard avait des interprétations plus ou moins différentes et ça lui avait valu beaucoup d'ennuis et le livre est très fort, hein, Métamorphose iranienne, je vous le conseille plus que fortement. Et déjà dans ce livre-là, il y a une chose de très particulière. Alors, il y a un dessin très rond, dessin de presse, hein, donc c'est noir et blanc avec des petites hachures très précis, tout ça, très rond. Et dans la Métamorphose iranienne, il racontait des choses terribles, hein, parce que bon, la prison iranienne, c'est pas une sinécure. Et c'est quelqu'un qui porte un regard très doux là-dessus. C'est-à-dire que et ça rend encore plus insupportable le quotidien de ces prisons. Là, enfin, ça rendait encore plus. Et là, c'est la même chose. Alors là, il raconte enfin comment il arrive en France et les démarches qu'il a à faire pour obtenir un titre de séjour en France. Donc forcément, alors ce qui est terrible, c'est que lui il dit mais moi j'ai aucun problème, c'est-à-dire que pour lui il n'y a aucun souci, c'est-à-dire que dans ses démarches, lui il est très bien accueilli, et pourtant il décrit un univers mais kafkaïen au possible, hein, on retrouve son goût pour, on voit bien qu'il aime ça, les absurdités, le côté, on le fait tourner en boucle dans des bureaux, on a des files d'attente interminables, etc. Donc, et là il va décrire précisément toutes les démarches qu'il faut pour obtenir un titre de séjour en France, et c'est, alors avec toujours son regard d'une incroyable douceur, quoi, c'est-à-dire qu'il regarde quelque chose de complètement absurde, cruel, enfin humiliant, et lui il regarde ça avec détachement, avec toujours son côté narquois, enfin il a un côté, voilà, il est impitoyable en même temps avec son air de faux gentil comme ça, il est terrible quoi, enfin c'est ce que ça dit sur notre société, Ça, c'est terrifiant, quoi. Enfin, si c'est comme ça qu'on accueille les gens, en plus, lui, quoi. C'est-à-dire que il arrête pas de dire ça. Il arrête de dire, mais moi, on m'accueille bien. Enfin, j'ai tous les. C'est facile pour moi. Et pourtant, il décrit un truc absolument. Donc, on imagine la complication que ça peut être pour les autres personnes où c'est moins simple, quoi, où on est moins aidé, parce que lui, il est aidé par les associations de défense de la liberté d'expression, etc. Donc, il a du soutien. Et c'est déjà un cauchemar total, quoi. Il y a il y a une situation absolument incroyable où il y a un moment dans ces démarches, il faut que ces empreintes soient enregistrées dans un fichier. Voilà. Et il y a un de ses camarades d'attente qui lui dit, mais oh, mais ça, t'inquiète pas, il y a un moyen très très simple, tu vas dans la rue et tu fais un petit délit. Pas trop. Et comme ça, tu vas gagner du temps, parce que si tu fais la démarche classique, ça va mettre tant de mois, alors que si tu vas dans la rue, tu vas à un endroit où c'est interdit de fumer, tu fumes une cigarette, hop, tu vas te faire arrêter par un policier, il va mettre tes empreintes digitales dans le fichier, et puis hop, ça passe, tu vas gagner du temps comme ça. Donc c'est bourré de détails comme ça, absolument cruel et terrible à la fois, parce que on voit bien que la France d'aujourd'hui, elle a une façon d'accueillir les gens qui est terrifiante, quoi.
Ouais, qui est loin d'être toujours la meilleure, effectivement.
Donc un petit ouvrage tout simple, que vous pouvez passer à côté, parce que ouais, il a un graphisme qui est pas très très attrayant, mais franchement c'est indispensable pour savoir ce que c'est que la France de 2015 quand même.
Donc petit manuel du parfait réfugié politique de Mana Neyestani chez Ça et Là.
Voilà.
Merci beaucoup Monsieur B.
Quand même 5, c'était généreux ce mois-ci.
Ouais, formidable. Bon, on se retrouve en octobre.
Voilà.
À très bientôt.
À bientôt.